like these little. Il y a une pharmacie non plus, je pense.
On ne sait pas, on ne sait plus. Je ne sais pas, je ne sais plus.
Allez, il est 8h.
Bonsoir aux auditeurs de chassidut.org. Une petite halakha pour commencer. Ça y est, on commence. Une petite halakha. Donc, comme Rosh Hashanah est la seule fête qui dure 2 jours dans toutes les communautés, alors on a le minhag. Il y a une discussion dans les décisionnaires si on doit dire Shechayanu rien qu'un jour, en disant que la fête, en fait, la fête c'est une journée longue de 48 heures. Est-ce que c'est appelé une journée longue de 48 heures? Dans ce cas-là, il suffirait de dire une seule fois Shechayanu pour le premier soir de la fête et on est quitte pour les 48 heures. Ou allons-nous dire que ce sont effectivement 2 vraies journées de 24 heures? D'accord? Alors, comme on conclut comme ça, qu'en vérité il y a 2 jours, donc on déduit qu'il faut redire encore Shechayanu le deuxième jour. C'est-à-dire pas seulement le vendredi soir, mais le samedi soir aussi. D'accord? Alors qu'est-ce qui se passe? Pour être tranquille, on achète un vêtement neuf qui mériterait de dire Shechayanu dessus, un vêtement de valeur, pas n'importe quel vêtement qui mérite Shechayanu, un vêtement de valeur, un vêtement dont on est tellement content, tellement heureux de le porter pour la première fois qu'on va dire Shechayanu dessus. Ou alors la coutume la plus répandue, c'est de dire Shechayanu sur un fruit nouveau. Mais encore faut-il que ce fruit nouveau soit mangeable, soit bon, pour dire Shechayanu dessus. Donc s'il est aigre ou s'il est pas mûr, ou si vous ne l'aimez pas, donc vous n'allez pas dire oh, heureusement que Dieu m'a prêté vie pour assister à ce moment-là, alors que ça vous est complètement égal de manger une mandarine acide ou un. Rendre une date amère. Donc il faut que ce soit un fruit qui réellement vous fasse un minimum de joie. Ouais. Un seul jour. Alors on a fait Shechayanu le premier soir. Et ça y est, c'est fini. On a fait Shechayanu parce que on est arrivé à un temps nouveau. Le temps nouveau de la fête. Maintenant, comme le deuxième jour, on ne sait pas si c'est un temps nouveau ou la suite d'un premier temps, alors on dit, pour sortir du doute, on choisit un fruit nouveau. Parce que c'est peut-être un temps nouveau, c'est peut-être pas un temps nouveau. C'est la question. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc on choisit de dire Shechayanu. Donc même si on n'a pas un fruit nouveau, on dira quand même Shechayanu, puisque la majorité des décisionnaires disent que c'est un autre jour. Et donc quand est-ce qu'il faudra dire cette bracha de Shechayanu? Alors le Rambam explique que on n'est pas obligé de dire Shechayanu quand on mange la chose. On peut dire Shechayanu même quand on voit la chose. Quand on voit la chose, déjà, ça justifie de... Alors, on utilise cette affirmation du Rambam de la façon suivante. On prend le fruit nouveau et on le dépose soit à côté des bougies, si on a l'habitude de dire Shechayanu au moment des bougies, soit à côté du verre de kiddush, si on a l'habitude de faire Shechayanu au moment du kiddush. Et donc vous auriez dit, voilà, il y a un problème, puisqu'on allume les bougies, mais on va manger ce feu-là que dans 1 heure. Ou alors on fait le kiddush, mais on va manger ce feu-là que dans quelques minutes. Et on ne devrait pas avoir un intervalle entre la bracha et la consommation. Quand vous dites Shechayanu sur un fruit, vous mangez le fruit tout de suite quand vous avez dit la bracha. C'est donc à cause de ce Rambam qui dit qu'il suffit qu'on voit le fruit que vous vous contentez de regarder le fruit et de dire je n'ai rien dessus et vous le mangez qu'après. D'accord ? Alors, donc, quand est-ce qu'on dit je n'ai rien d'autre sur le fruit ? Donc le deuxième jour. Parce que le premier jour, il n'y a pas besoin de fruit. C'est la journée elle-même qui nécessite le. C'est le temps qui nécessite le chériano. Ce qu'on dit, ce qui nous a fait arriver à ce temps-là, quoi. Chériano, ce temps en question. Ne dites pas que c'est pas moi qui comprends pas vos questions. Tout le monde me fait ça, rien. Les gens me prennent pour un gâteau qui comprend en travers. Alors que je réponds un peu trop loin, peut-être. Quoi ? Le temps justifie la bracha. Quand un temps nouveau arrive, un temps spécial, alors on dit merci mon Dieu de m'avoir fait arriver à ce temps. C'est le temps qui justifie la bracha. De quoi la bracha du fruit? Ben, je vais vous expliquer. Soit au moment des bougies, c'est pour celles qui disent j'irai à nous à l'allumage, ou soit au moment du kidouche. Non, le vendredi soir, vous n'avez pas besoin du fruit, puisque c'est le début de la fête, c'est le temps qui suffit. Vous avez compris ? C'est le deuxième jour qui exige qui est un problème. Le premier jour, il n'y a pas de question. Alors, il y en a qui disent « Ner Shem Shabbat Shel Yom Tov » et chez Chabad, on dit « Shel Yom Azikaron ». Tous les autres disent « Shel Yom Tov ». Nous, on dit « Shel Yom Azikaron », c'est une tradition ancestrale dont on ignore à l'origine d'ailleurs. C'est le Mouazakhen qui dit ça. Il ne donne pas de référence. Mais tous les autres communautés disent comme un jour de Yom Tov normal, Shel Shabbat, mais Shel Yom Tov. Vous avez compris? Maintenant, le lendemain soir, comme c'est la fin du Shabbat, donc vous ne pouvez pas allumer les bougies tant que le Shabbat n'est pas parti. D'accord? Suivez. Donc vous attendez qu'il fasse bien nuit, d'accord, vous êtes sûr, vous regardez dans le calendrier à quelle heure sort le Shabbat, d'accord, voilà, donc vous attendez que ce soit bien la nuit, et rien qu'à ce moment-là, vous pouvez préparer vos bougies. Tant que le Shabbat n'est pas sorti, le Yom Tov ne repousse pas le Shabbat. Donc il faut attendre que le Shabbat s'en aille pour que le Yom Tov rentre. Voilà. Maintenant, au niveau du comportement le jour de Yom Tov, à l'époque du Talmud, on voit qu'on faisait la shrita le Yom Tov. Comme il n'y avait pas de frigidaire et de congélateur, les gens faisaient la shrita pour avoir de la viande fraîche. Ils cuisaient du pain, ils cuisaient des gâteaux, ils faisaient des tas de choses le jour de la fête elle-même. Parce que c'était meilleur que c'est quelque chose qui a traîné 48 heures. Parce qu'à l'époque, comme il n'y avait pas de frigidaire, alors il salait les viandes, il les faisait baigner dans l'huile pour pas que ça tourne. Mais aujourd'hui, que personne ne. Tout le monde utilise le frigidaire ou le congélateur, donc on n'a plus cette permission de préparer Yom Tov pendant Yom Tov. Donc on n'a pas le droit de dire. Bon, en fait, je me casse la tête à préparer pour le dimanche. J'attendrai dimanche, samedi soir, avec qui il est. Alors, on voit qu'on n'a pas le droit de faire ça. Et aujourd'hui, vous n'avez le droit de faire quelque chose que si c'est meilleur le jour même. Donc, par exemple, on vous dit piler des épices. Vous avez le droit de piler des épices parce que c'est un meilleur goût quand elles sont pilées maintenant que si elles sont bien dans 24 heures. Mais aujourd'hui, où vous ne pilez pas les épices, où vous ne faites pas du pain frais, où vous ne faites pas de la viande fraîche, etc., toutes ces raisons-là disparaissent. Donc il faut préparer tout avant le Shabbat. Et donc le Yom Tov, on n'a rien que le droit que de chauffer, en fait. On n'a pas le droit sauf de préparer une salade. Par exemple, une salade, vous ne pouvez pas manger une salade de 48 heures à l'avance. Donc c'est une tombe. Mais à part une salade que vous avez préparée le jour du dimanche, tout doit être prêt à l'avance. Vous ne pouvez pas dire, puisque dimanche j'ai rien à faire, le chauffard, je ne suis pas obligé de l'écouter, donc je reste à la maison, je vais préparer mon repas de midi pendant que les hommes sont à la synagogue. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de différence dans le goût si votre plat a été fait le dimanche matin ou s'il a été fait vendredi. À cause du... C'est une géniale invention qui s'appelle le frigidaire. Le réfrigérateur. Voilà, vous avez compris? Pas de questions? Vous aimez bien la halakha, hein? Ouais, bien sûr. Samedi soir. Voilà, bravo, Kolakavod. Absolument, Kolakavod. Donc c'est un détail qu'il était important de rappeler. Il faut se munir d'une flamme qui a déjà brûlé avant l'entrée du Shabbat. Bon, si vous n'avez pas de flamme, vous pouvez demander à quelqu'un, un voisin, même si vous savez que ce voisin l'a allumé de façon interdite. Moi, si quelqu'un n'est pas religieux, un voisin n'est pas religieux, vous allez chez lui après le Shabbat, il dit, tu as du feu s'il te plaît, vous pouvez lui demander, attends, comment tu as eu ce feu? Qu'il ait eu ce feu d'une flamme déjà existante, ou qu'il ait allumé maintenant, Motzei Shabbat, parce qu'il ne connaît pas la halakha ou qu'il ne s'en préoccupe pas, il n'est pas obligé de savoir, vous savez. Pourquoi? Parce que l'interdiction d'allumer un feu Yom Tov, à partir d'une flamme, c'est une interdiction que les rabbanan ont instaurée. On aurait pu le faire avant. Vous auriez pu avoir du feu avant. Donc, comme tout ce que vous pouviez faire avant, on vous interdit de le faire Yom Tov, pour éviter les abus. Par exemple, moi, ça m'est arrivé un jour. À Paris, dans l'ascenseur, il y avait une lampe. Vous voyez, c'est des vieux ascenseurs en bois, là. Roux, combalusier. Alors, vous ouvriez les portes, on ouvrait les portes comme ça, et à ce moment-là, la lumière s'allumait. Ouais, et la porte se refermait comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un jour de Yom Tov, je suis rentré chez moi, et par instinct, je suis rentré dans l'ascenseur. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Il faut ressortir. Rester, être dans l'ascenseur n'est pas difficile, c'est de fusillette qui est compliqué un jour de Yom Tov. Vous avez compris? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rouvert la porte. En réalité, je vous dis, c'est que dans le cas où vous auriez pu avoir du feu à l'avance, que vous n'avez pas le droit d'utiliser du feu neuf. Et si vous n'avez pas de feu neuf, dans un cas exceptionnel, vous pouvez faire du feu. Si vous n'avez aucune chance de trouver du vrai feu, on va pas vous interdire l'utilisation du feu sous prétexte que les Khagamim vont exiger de prendre une autre flamme. Donc c'est vrai ce que vous dites, a priori il faut utiliser du feu déjà existant, mais si quelqu'un a oublié ou sa flamme s'est éteinte et qu'il n'a pas un hôtel à côté pour demander du feu et qu'il n'a pas un voisin, alors il demande à n'importe quel voisin, ça n'a aucune importance. Ou même à un goy, vous lui demandez. Un goy de la rue, vous prenez un Thaïlandais, surtout qu'il s'en est content d'être là plutôt que là-bas en ce moment, il vous dit au Thaïlandais, faire favor, allume-moi du feu s'il te plaît. Donc c'est pas la même chose que Shabbat. Mais votre marque est judicieuse, il faut acheter à l'avance des mères à mère Neshama, de préférence, de 25 heures ou de 48 heures. Des bougies pour le samedi soir. Non, c'est pas la peine. J'ai compris. Vous avez dit de l'huile. J'ai compris que c'est pas des bougies. Vous avez une forte tendance à me prendre pour un. J'ai compris, vous m'avez dit de l'huile. Déjà, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas des bougies. Et je vous ai répondu, ce n'est pas la peine. Il n'y a pas de problème d'enfoncer la mèche dans le liège pendant Yom Tov. C'est la même chose.
C'est pareil.
Voilà. C'est pas un travail.
C'est pas un travail.
Non, parce qu'on a le droit d'utiliser du feu. Donc on ne peut pas vous obliger à. Par exemple, les gens qui font à la hache. Il y a des Israéliens qui font à la hache quand même en le Yom Tov. C'est très bête à Migdash. Parce que quand La Torah vous dit qu'il n'y a de joie que dans la viande, il n'y a de joie qu'avec du vin. La Torah n'a pas pensé à la viande bouillie et cuite à l'huile. Elle pensait à la viande au gris, à la viande grillée. C'est ça la viande qui donne de la joie. C'est que cette viande-là dont on parle. Ah oui, la viande au barbecue, c'est elle qui donne de la joie. Donc il y a des Israéliens qui carrément ils font comme ça. Donc il y a certaines alakhot difficiles à respecter quand c'est, parce qu'il faut savoir ne pas attiser trop le feu, ne pas l'éteindre, etc. Ah oui, il y en a qui font comme ça. Comment ils faisaient du temps du Beit HaMikdash? Ils mangeaient de la viande au barbecue. Ils mangeaient de la hache. Voilà, donc ils allumaient leur pétrole, leur essence, et ils font brûler leur charbon, etc. Donc vous voyez bien que si ça demande quelques connaissances de la halakha pour faire ça, ça ne peut pas être pire que de mettre des mèches dans des lièges ou des supports dans des... Voilà. Pas de question ? Pas de question. Bon, le reste, ce sont des choses, bon, que le chauffard, etc. Chacun sait que même les femmes qui ne sont pas tenues du chauffard en réalité ont la coutume de quitter le chauffard. Ça, vous le savez déjà. C'est pas parce que c'est une mitzvah facultative pour la femme que les femmes ne la font pas. Au contraire, on voit très souvent que quand les choses sont facultatives, les gens ont plus tendance à vouloir les faire quand elles sont obligatoires. Non, parce que quand on a l'ordre d'une chose, il y a le mauvais penchant qui vous empêche de le faire. Quand il n'y a pas d'ordre, alors c'est facile. Voilà. Vous pouvez vous munir d'un livre, nous allons étudier ce soir le morceau de Torah qu'on lit le jour de Rosh Hashanah. Que vous connaissez toutes. Hana, c'est la Haftara. Non, la Haftara, c'est le lendemain. C'est... Allez. C'est le chapitre Kaf Aleph, chapitre 21 dans Bereshit. Chapitre Kaf Aleph. Vous y êtes? Ah, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Ah, excusez-moi, page Tzadik Aleph. Prenez un livre. Qu'est-ce qu'il y a? Page Tzadik Aleph dans les éditions belges. Autrement, c'est le chapitre Kaf Aleph. Page 91, tiens, je vois écrit que page 91 ici. Vous y êtes? Non, il est parti, vous y êtes. Ouais. Je crois, hein. Il y a moins qu'il revienne. Alors, vous y êtes, page. Chapitre Kaf Aleph? D'après la pagination de votre livre. Il ne faut pas me regarder quand vous tournez les pages. Il faut regarder la page. Là, vous allez vous remonter. Là. Le chapitre Kaf Aleph. Non, non. Prenez ce livre beige, page 91. Allez, j'y vais. C'est bon ? 91 pour les livres beige. Et vous n'y êtes pas. Bereshit. Chapitre Kaf Aleph. D'accord. Mais je crois que je vais vous apprendre à compter, mes amis. Non? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, et comment vous comptez dans les billets de banque? Vous arrivez à les compter, les billets de banque? Voilà, Kaf Aleph. Là, voilà. Alors, ça commence comme ça. Vashem pakad et Sara. Et Dieu pakad et Sara. Dieu a, comment dire, a a donné ordre à propos de Sarah. Fakat, c'est la shon lifkod. Donner une pkouda, il a donné un ordre dans le Beddin Noho. Lifkod et Sarah. Lifkod, ça veut dire quand une femme attend un enfant, c'est venu de cette formule-là, Hashem Pakal et Sarah. Il a donné ordre que Sarah ait un enfant. Donc c'est toute une machloquette. À quel moment il y a eu cette kouda sur Sarah? Vos. À quel moment Dieu a donné cet ordre que Sarah tombe enceinte? Alors, il y a une discussion, il y en a qui disent que c'était au moment de Pessah, quand l'ange est venu annoncer la naissance de Yitzhak l'année prochaine. Je dis dans exactement l'année prochaine, à ce moment-là, Sarah aura un fils. Donc il y en a qui disent que c'était que l'ordre a été donné à Pessah.